Podcast.com. Essaye ça.
Les Inuits et coureurs des bois, et William Price, le riche gallois, enfin les gens de Charlevoix, c'est ainsi que nous voilà, au Saguenay.
Le crachoir, épisode 96. On a choisi le déluge du Saguenay, ça s'est passé en 96, puis c'est pas mal un incontournable de l'histoire du Québec, et qui dit histoire, dit Jay Rivard. Ça rime presque si on prononce mal. Salut Jay!
Salut, ça va?
J'ai eu peur que tu sois pas là. Ben oui, ça va. Il y a aussi Martin qui est là, mais qui est pas tout à fait là. Il est en train de
allô.
Du Heineken virus. Salut Martin.
Salut.
Mes sympathies.
Je serais pas très
le quoi?
Actif aujourd'hui, ouais, c'est ça. Exact.
Ouais, nous autres, on se voit par le biais de la caméra parce que on est éparpillés un peu à grandeur du Québec. Moi, je suis à Rouyn, pour ceux qui ne le savent pas, à Rouyn-Noranda. Jay est au Témiscamingue, puis il est pas sur le bord, dans le fin fond. Peu importe ce que ça veut dire. Et puis, Martin est à Montréal. Fait que on se parle comme ça par Internet, on voit nos grosses faces. Puis, Martin, aujourd'hui...
C'est l'enfer.
Avoir un look cadavre. Mais il parle des fois, fait que là, des fois, on fait des sauts. Mais il est bel et bien vivant, puis c'est lui, d'ailleurs, qui nous enregistre, puis qui... tout à côté.
Ça, je vous le dis, ça va toucher, puis tout. Là,
ah, c'est pas grave, Martin, t'as le droit d'avoir le Heineken virus. T'as-tu fait une petite rencontre orientale, là?
Non, du tout. Puis
on fait toujours prévu, c'est racisme.
Non, non, c'est ça. Ça a commencé hier, en fait. Là, puis je me suis levé avec ça. Puis j'étais tout ce qui rappe.
Ben, c'est ça. Bon, mais prompt rétablissement, Martin.
Merci beaucoup.
Jay, on va entrer dans le vif du sujet. Tu t'es attardé à ça. C'est un gros bout, pareil. Ça a marqué pas juste la région, mais pas mal l'histoire du Québec, cette affaire-là.
Ben justement, on avance dans mes années. Alors oui, Frank, épisode 96, j'ai 7 ans. Alors, les souvenirs sont de plus en plus clairs dans ma mémoire. Le déluge du Saguenay, une des pires catastrophes naturelles que le Québec a connues. Des dommages qui se sont élevés à quasiment 2 milliards de dollars. C'est quand même assez extraordinaire qu'est-ce qui s'est passé au Saguenay, là. Ce déluge-là, aujourd'hui, quand je faisais ma recherche aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup d'inondations, tu sais, de printemps en printemps, mais le déluge du Saguenay va rester dans la mémoire parce que justement, on a toute l'image de la petite maison blanche qui reste debout, bien droite, face à ce torrent incroyable. Alors, moi, c'est surtout ça que je me souviens là, du déluge du Saguenay.
C'est pas une région qui était, tu sais, couramment, c'est comme, admettons, comme, je sais pas, Sainte-Marie-de-Beauce ou Beauceville, il y a des places qui sont toujours inondées, puis on est comme habitué, puis tu vois l'inondation arriver par le bout de la rue, tu as porté ton char plus haut dans la ville, puis je l'ai vécu. J'ai vécu direct sur le bord de la rivière Chaudière, la pire rivière au Québec, c'est-à-dire qu'au printemps, elle déborde, puis elle scrape tout, puis pendant l'été, elle se traverse à pied, puis il n'y a pas un maudit poisson dedans. Mais tu sais, c'est pas la même ampleur. Tu sais, ça, c'est comme juste, elle sort de son lit, puis elle déborde un peu sur les rivages, tandis que là, tu sais, quand on parle de déluge, c'est vraiment des proportions presque bibliques, parce que c'est vraiment la pluie qui a causé ça, hein.
Ben oui, puis justement, on parle de pluie. Dans le fond, comment ça s'est formé, ce déluge-là? C'est une dépression qui a monté des Grands Lacs vers le sud du Québec et puis qui a monté vers l'est tranquillement. Et puis le pire s'est produit justement au-dessus du Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis surtout... T'sais, surtout au-dessus du Saguenay, parce que on est en Abitibi-Témiscamingue et puis moi, il n'y a rien qui m'écœure le plus de me faire dire que je viens de l'Abitibi. On parle vraiment du Saguenay ici qui a vécu le pire.
Ouais, Saguenay,
c'est environ, les gars, deux... Exactement, tu sais. Puis c'est environ 275 mm de pluie qui a tombé en dedans de 3 jours, du 19 au 21 juillet 96. Alors, c'est quasiment une moyenne annuelle, les gars, qui tombent en dedans de 3 jours. Fait que qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Puis le pire là-dedans, c'est que c'est un barrage que le nom m'échappe, là. Mais c'est un barrage justement qui a été inondé, qui a sorti complètement de son lit, si on veut là. Alors ça a vraiment débordé et puis ça l'a atteint la ville de Saguenay et puis les environs là.
Cette quantité de pluie là, on l'a dans un reportage que j'ai vu, on l'avait transposé en neige. C'est l'équivalent de 3 mètres de neige qui tombe en quelques heures, là, genre 72 heures. Là. C'est imaginez ça, 3 mètres de neige. Là. Je sais pas combien ça fait en pied, 10 pieds au moins. C'est quelque chose.
Exactement. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est que oui, ils ont reçu quasiment un pied d'eau en dedans de 3 jours. Tu sais, quand tu y penses, c'est un pied d'eau là, quasiment. Mais le pire, c'est que ce printemps-là, le printemps 96 au Saguenay, avait été un printemps vraiment tardif. Fait que tu sais, la fonte des neiges s'était faite, tu sais, au mois de mai, fin mai, alors l'eau est encore gorgée d'eau. Alors, il n'y avait aucune possibilité que... La terre, oui, la terre est encore gorgée d'eau, alors il n'y avait aucune possibilité que cette eau-là soit absorbée à mesure. Là. Puis tu sais, on parle d'un pied d'eau en dedans de 3 jours, fait que déjà là, c'est assez incroyable. Fait que c'était inévitable de vivre ça cette année-là. Là.
Moi, ce qui m'a marqué le plus, tu sais, moi j'avais 16 ans, là, je suivais ça à TV, c'était l'espèce de mobilisation de tous les artistes qui avaient embarqué là-dedans. Puis il avait même fait, je sais pas si tu te rappelles, le Bye Bye, il l'avait fait... au Saguenay, je sais pas si
c'est vrai.
Quelle ville exactement là, mais ça avait été, ça avait marqué pas mal le milieu de la culture aussi, puis ça, mais il y a eu toutes sortes de dons, il y a eu une espèce de, je sais pas, une espèce de téléthon ou je sais pas quoi, il y a eu plusieurs événements, il y a eu la Croix-Rouge qui a ramassé l'argent, l'armée est embarquée là-dedans. Hein?
Oui, oui.
Fait que c'est ça quand ça. Quand
je me souviens, moi je me souviens de... Je me souviens d'une conférence de presse, c'est vraiment loin dans ma mémoire, je n'ai pas réussi à la trouver sur Internet, mais je me souviens d'une conférence de presse de Lucien Bouchard et puis de Jean Chrétien conjointe, que justement, on annonçait des mesures d'aide pour les Saguenayens. C'était-tu Jean Chrétien dans ce temps-là, en 96? Je pense que oui, hein, au fédéral?
Oui. Je pense que oui.
Ouais, hein? Ben, j'ai comme ce souvenir-là lointain d'une conférence de presse au Saguenay pour annoncer justement des mesures d'aide. Puis en plus, il y a eu quand même plusieurs morts associées à cette catastrophe-là, si on peut dire.
À peu près,
ouais, je pense 7 ou 10 ans. Ouais, dont 3 d'une même famille. Alors, ça a décimé quand même une famille complète, là, ce déluge-là.
On pense à de l'eau, mais c'est pas de l'eau qui ruisselle tranquillement. C'est des torrents, puis c'est de la boue, beaucoup de boue, fait que ça enlise. Puis en plus de tous les dommages que ça a fait sur le coup, c'est que les maisons, après ça, même celles qui avaient résisté, étaient irrécupérables parce que l'eau, ça fait des dommages dans les fondations, tout ça. Mais surtout, c'est que ça, tu peux pas ramasser ça. T'appelles pas... Calinette, là, puis ils s'en viennent, puis ils ont juste ta maison à s'occuper. Fait que l'eau reste là, ça fait des moisissures, ça fait des champignons, ça devient carrément insalubre parce que ça se ramasse dans l'air, tu peux pas respirer ça. Il a fallu démolir toutes sortes de maisons ancestrales, de commerces. Il y avait une boulangerie qui était centenaire. J'ai vu dans un reportage, la boulangerie était centenaire, puis il a fallu, tu sais, elle a tenu debout, mais il a quand même fallu la raser, la brûler, la détruire, parce qu'il y avait plus rien là-dedans. Même la petite maison blanche qui est bien cute, c'est un monument, là, mais c'est pas habitable, là.
Non, oublie ça, là, tu sais. Je pense que, justement, autour de cette maison-là, emblématique, je pense qu'il y a rien de bâti, tu sais. Je sais pas, là, tu sais, je suis pas allé au Saguenay, là, après, mais il me semble qu'il y a rien de bâti vraiment alentour, tu sais. On l'a laissé comme...
C'est un belvédère de temps pour que les touristes puissent l'admirer.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on peut vraiment mettre ce déluge-là du Saguenay dans les plus grosses catastrophes naturelles que le Québec moderne a connues. Puis quand je parle du Québec moderne, c'est depuis la Confédération, dans le fond. Là. Parce que sûrement qu'il y a eu, tu sais, sûrement dans les centaines d'années avant, les millénaires, sûrement qu'il y a eu des affaires semblables, mais tu sais, c'est pas rapporté. Mais de notre histoire, c'est une des pires catastrophes du Québec et même peut-être du Canada, là, tu sais, quand même. Là.
Ben, il y a déjà eu un déluge à Montréal, puis ça fait pas si longtemps que ça, en 87. C'était pas bon, c'était pas exactement la même chose, c'était pas aussi énorme, puis mais 4 orages en ligne. Puis ça a laissé comme 100 mm de pluie en 2 heures. Tu sais, ça a été comme juste d'un coup, mais tu sais, ingérable parce que trop rapide. Mais c'est pas le même genre de catastrophe. Ça a fait des dommages, là. C'est sûr que ça a fait des dommages, mais pas du même ordre. Puis surtout, ça n'a pas été une catastrophe. Parce qu'il y a aussi, tu sais, OK, il y en a 10 qui sont morts, mais il y en a combien à relocaliser, à nourrir? Ces gens-là se retrouvaient avec rien, là. Tu sais, ta maison est partie avec tout ce qu'il y avait dedans, là. Puis il y en a qui ont été secourus, tu sais, in extremis, là. Fait que tu peux rien amener, là. Tu pars dans la chaloupe, dans l'hélicoptère, ou peu importe, à pied si t'es capable. Mais beaucoup de gens qui se retrouvaient avec absolument rien. Puis ça, c'est... Si t'es chanceux, t'étais assuré, puis il y en a qui non. Mais, tu sais, c'est des milliers de personnes, en tout cas, à tout moins des, ouais, sûrement des milliers, j'imagine, en tout cas, à tout moins des centaines, qui se retrouvent avec rien, puis qu'il faut loger, qu'il faut nourrir. Ça a été une grosse épreuve, pas mal pire que le déluge de Montréal.
Puis, excuse-moi, puis tu sais, il faut penser qu'après ça, 2 ans plus tard, ben, arrive la crise du verglas. Tu sais, sûrement qu'on va en parler à l'épisode 98, là. Mais, tu sais, la fin des années 90 au Québec, c'est pas... Il s'est passé vraiment des choses assez incroyables. Tu sais, qu'on parle du référendum qu'on a parlé au dernier épisode, qu'on parle là du déluge, qu'on va parler de la crise du verglas. Ça a été quand même une deuxième moitié de décennie assez assez mouvementée au Québec, là.
Des fois, quand on regarde l'histoire avec le recul, tu regardes sur des centaines d'années, ah, il y a eu des guerres, il y a eu toutes sortes d'affaires. T'sais. Puis nous autres, à notre époque, il se passe rien. Mais c'est parce qu'à à l'échelle d'une vie humaine, c'est pas une grosse époque. Mais je trouve que dans l'histoire récente qu'on a eue, il y a quand même des événements comme ça qui marquent. On s'en rend pas compte parce qu'on les vit un à la fois, mais avec le recul, dans 20, 40, 50, 100 ans, les gens qui vont regarder notre époque, ils vont trouver des affaires intéressantes. On s'en rend pas compte quand l'histoire se déroule, hein, c'est après.
Ben justement, tu sais, puis comme je t'ai dit, j'avais 7 ans, puis je me rappelle très bien de ça. Tu sais, je me rappelle de mes parents qui capotaient. Tu sais, nous autres, mes parents, ils ont tout le temps resté à Ville-Marie au Témiscamingue. Puis je me souviens d'avoir écouté ça à TV, puis mes parents, tu sais, je pense qu'ils avaient envoyé des dons, justement, là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est quand même quelque chose d'assez marquant. Puis, il faut penser aussi, tu sais, on parle du 275 mm de pluie. C'est quand même une vague de 2 mètres. De 2 mètres qui s'est promené dans les villes de Chicoutimi et de la baie. Fait qu'imagine, hey, 2 mètres d'eau, là. Fait que, tu sais, ça a inondé une grosse partie de ces villes-là. Puis imagine, après ça, ça s'en va vers le fleuve. Fait que ça a été quand même incroyable, justement, toute cette eau-là. Par après, tu sais, je me souviens pas
quelles
répercussions ça a eu par après, mais. Exactement, tu sais, fait que, tu sais, de descendre la rivière, tu sais, de descendre tout ça, puis arriver au fleuve, ben, ça a dû être une pas pire vague, sérieux.
En tout cas, ça a donné une commission d'enquête, évidemment, après quand on a vu les répercussions de ça.
Ah oui?
Ben oui, puis ils en sont venus à la conclusion qu'il fallait se doter de normes plus strictes de construction puis de surveillance des barrages. Puis ça, on en avait beaucoup parlé, les barrages qui étaient vétustes, ça datait de plus de 50 ans, puis il y a certaines des vannes, des évacuateurs de crues, tu sais, qui servent à éviter ces débordements-là, qui étaient même pas fonctionnels. Puis d'ailleurs, même s'il y a un avertissement météo plus abondant, on n'avait pas réagi assez rapidement, c'est ce qu'on avait déterminé. Fait que si, en plus, on n'a pas, tu sais, à la base, on n'a pas réagi assez rapidement, mais il y a des vannes d'évacuateurs de crues qui marchaient même pas. C'est plate qu'il faut attendre qu'il arrive des catastrophes comme ça pour se mettre à jour dans nos infrastructures puis dans nos façons de fonctionner. Il y a eu une autre recommandation, c'était de prévoir un plan d'urgence pour chaque municipalité du Québec pour que les pas juste pour les inondations, mais toutes les catastrophes pour que il y ait une façon claire d'évacuer la population, de mettre en place des infrastructures temporaires pour accueillir des réfugiés, tu sais, des sinistrés plutôt. Fait que oui, au moins, il y a eu un petit peu de bon tiré de ça. Ou en tout cas, on dira pas de bon, on va dire qu'il y a eu une leçon qui a été tirée de ça. Puis ça aura peut-être permis à plusieurs, ça je le sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des barrages puis il y a des infrastructures qui se sont mis à jour pas longtemps après ça. Puis pour ce qui est des plans d'urgence, je pense que ça a déjà sûrement paru à la crise du verglas qui est arrivée 2 ans plus tard. ça quand il y a des catastrophes comme ça, on remarque ce qui fonctionne moins bien pour la gestion de crise, puis on améliore, puis c'est pour ça qu'il y a des commissions d'enquête, puis des fois ça donne quelque chose, des fois c'est tabletté, mais je pense que celle-là aura porté fruit. D'après moi, il y a des barrages qui ont investi un peu d'argent après cette catastrophe-là.
Fait que moi, je dirais que c'est pas mal ça, mon cher François, pour cet événement de 1996.
Bon, on va aller en musique avec une chanson que j'ai refusé de te dévoiler après avoir refusé ton choix, parce que j'avais trouvé mieux, ou pire, ou plus drôle. C'est spécial! Ça s'appelle « Amène-moi à Chicoutimi » de Rose et Fusil. C'est une parodie de Guns N' Roses faite par les Pile-Poil. C'est assez tordant. Les voix sont ce qu'elles sont. On écoute ça, c'est le Crachoir 96, le déluge du Saguenay.
Amène-moi à Chicoutimi, où il n'y a rien à faire, puis que les routes sont finies, sur le boulevard du Royaume. Amène-moi à Chicoutimi, manger des hot dogs à la cantine au gris, je veux voir la place du Royaume. En 1985, c'est bien qu'une avalanche. La source aux pierres tombées sur la petite mer blanche. Après déluge, la ville a pris sa relance. La meilleure place pour faire des achats, parce qu'il y a $3 à mort. Ici, c'est tellement hot, nos ponts ils prennent en feu. C'est clair, on vit comme des dangereux. On va au vieux bar, claquer des buvards, et on va saluer la Cine par le trafic de cocaïne. Amène-moi à Chicoutimi, où y'a rien à faire du lundi au samedi, sauf voir la place du Royaume. Amène-moi à Chicoutimi, dimanche à l'église, de maintenant pépris, ça ressemble à ça, le Royaume.
Ils les dénoncent, les charlatans, ils les pourfendent, les mythes, ils les brisent, les tabous, ils les enculent.
Le Crachoir, numéro 96. Le déluge du Saguenay. Je devrais pas essayer de faire l'accent, je l'ai pas pantoute. C'est ridicule. La SQ a démantelé un réseau de trafiquants dans le Nord. Puis c'est arrivé, là, c'est frais. Là. Au moment où on enregistre, c'est arrivé ce matin. Donc, on est mardi le 18 février. C'est un réseau de revente illégale d'alcool puis de trafic de stupéfiants, mais... Le gros de leurs opérations était centré autour de l'alcool. C'était démantelé justement par la Sûreté du Québec avec le service de police régionale de Kativik. Ça opérait dans une douzaine de communautés inuites du Nunavik. En 4 ans, juste pour vous donner une idée de l'ampleur, l'échelle de ça, ils ont acheté et vendu plus de 39 000 bouteilles d'alcool. C'est tout parti dans 12-13 communautés inuites. C'est énorme, là. L'opération policière s'appelait Plutonium, puis bon, ça donnait des perquisitions, puis on sait pas encore, c'est tout frais, là, les arrestations, qu'est-ce qui en sera, mais la façon de fonctionner, c'est que ceux qui opéraient ça achetaient l'alcool dans la région de Montréal pour la revendre 8 à 12 fois plus cher dans les communautés, puis... Il y avait aussi un peu de stupéfiants au travers, mais c'était surtout l'alcool, puis ils envoyaient ça par la malle, eux autres. De 2016 à 2020, ils ont envoyé 39 400 bouteilles d'alcool, surtout de la vodka, pour une valeur de 900 à quelques mille dollars. Ça, c'est le prix qu'eux autres le payent. Mais c'est pas le prix que ça vaut dans la rue là-bas. J'ai vu un reportage, ça m'a incité à me renseigner là-dessus parce que je savais qu'il existait... un marché noir d'alcool dans les réserves, parce que des réserves qui sont sèches, ça je vais vous expliquer c'est quoi pour ceux qui sont pas familiers avec ça. une communauté sèche, c'est une communauté où l'alcool est carrément interdit, prohibé. C'est pour ça que ça marche, d'ailleurs, la contrebande d'alcool. Là, ça, il n'y en a pas beaucoup là, à Sainte-Foy, là, de la contrebande d'alcool. Mais dans une communauté où l'alcool est interdit, une réserve sèche, c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi des communautés qui ont un système restrictif, que l'alcool est comme semi-légal, mais c'est quand même compliqué. Dans un système restrictif, faut que tu commandes l'alcool, mais il y a tellement de restrictions, il y a des procédures administratives, l'approbation de l'un, de l'autre. Après ça, il y a un comité qui fait partie c'est une espèce de comité de lutte à l'alcoolisme dans les communautés, qui a le pouvoir de soit de limiter la quantité que tu commandes, genre, OK, tu peux en commander, mais juste deux bouteilles, ça va être assez, mon grand. Ou carrément rejeter la requête, genre, non, on décide que toi, t'es pas assez responsable, pis t'en commandes pas. Ils disent ça des adultes, là. C'est spécial en maudit, là. Puis évidemment, dans une réserve complètement sèche, ben, il y a juste le marché noir. Puis au marché noir, ce qui marche bien gros, c'est les bouteilles de vodka. Un gros 40 onces, là, ça peut coûter jusqu'à 600$. Puis la plupart vont être calés.
Ah, ouais.
Ouais, on appelle ça du binge drinking, là, mais ça peut aller jusqu'à de 5 à 600$. Ça vaut genre 60-70$ la bouteille de vodka quand ils l'achètent. Mais il y avait entre 550 et 600$. C'est fou, hein?
Mais comment ils font pour se payer ça? Là, on parle, mettons, des Autochtones qui se payent ça ou bien.
Oui, les Autochtones qui vivent dans les réserves.
600$ pour un 40
ben, j'imagine que tu te mets à 3-4, puis tu mets 100 piastres chaque, puis ou 150 piastres chaque, puis c'est ça, là. Puis c'est j'ai vu un reportage, justement, qui on interviewait des intervenants là-bas, des intervenants sociaux qui s'occupent de ça, ou des policiers. Ils disent souvent, ce qui va arriver, c'est que non seulement ils vont acheter de la vodka comme ça, mais ils vont la caler carrément, parce que, premièrement, ils veulent pas trop la partager au prix que ça coûte. Puis deuxièmement, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est comme un fixe. Là. Ils vont chercher la drogue là-dedans, puis la rareté, puis le prix, la valeur de l'alcool la rend encore plus précieuse. Fait qu'ils vont la consommer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, le mode de consommation est à peu près aussi grave que l'alcoolisme comme tel. Puis la majorité des problèmes sont souvent soit en lien avec l'alcool ou implique l'alcool. Tu sais, il peut y avoir, je sais pas, un crime ou un drame familial, une bagarre qui est pas nécessairement causé par l'alcool, mais l'alcool, d'habitude, hein, on sait, ça rend mieux de pas la situation. D'habitude, ça empire les choses. On dit que 95% des interventions policières sont liées à l'alcool. Puis ça vient des services policiers, carrément. Il y a des communautés qui font même des listes noires. Tu sais, une liste noire, comme dans les belles histoires des pays d'en haut, là, tu sais, dans peut-être la colonisation, là.
Ouais.
Fait que quelqu'un qui se ramasse sur la liste noire, c'est quelqu'un qui a commis un délit, qui s'est fait arrêter en état d'ébriété, genre à voler ou ben se battre ou whatever. Il va se retrouver dans une communauté, mettons, où il y a un système restrictif, où il y a de l'alcool, mais tu sais, c'est quand même restreint de plusieurs façons, comme celle-là, de la liste noire. Puis cette personne-là pourra pas ni acheter ni consommer d'alcool pendant une période de temps déterminée par la police régionale et la municipalité ensemble décident combien de temps tu vas être sur la liste noire. Ça puis il y a un débat, puis d'ailleurs il y a plusieurs communautés qui font des référendums pour savoir si est-ce qu'on reste une réserve sèche ou ben si on légalise l'alcool, parce que ça il y en a beaucoup dans ces réserves-là qui défendent l'opinion selon laquelle l'alcool devrait être légal et vendu par des commerces qui sont gérés par la communauté. Comme ça, au moins, les profits de la vente d'alcool, à la place d'aller au crime organisé, ça reviendrait à la communauté. Ça pourrait lutter pour l'alcool. Ou ben, tu sais, ils ont toutes sortes de problèmes, là, surtout de logement, là, leur maison, là, ça fait dur, là. Il y a des places que c'est le tiers-monde, carrément, là. Fait que, tu sais, si ces gens-là sont. Parce que l'alcoolisme, c'est pas vrai que ça va disparaître, puis c'est pas parce qu'on interdit l'alcool que l'alcool sera pas présent. Il va juste être illégal puis beaucoup plus cher. Puis la prohibition, si ça avait marché, ça serait encore prohibé aux États-Unis puis ici. Mais la prohibition ne marche pas. Fait que plutôt qu'essayer de faire d'interdire ça puis de forcer les. En tout cas, de pousser les alcooliques, ceux qui sont victimes de cette. En tout cas, certains disent une maladie, mais je dis peu de misère avec le terme, mais en tout cas, ceux qui s'adonnent à ce vice-là, mettons, à dépenser des 500-600$ pour une bouteille d'alcool, ben peut-être qu'il y aurait le prix normal sur le prix normal du Nord, là. Sachez que dans le Nord, il n'y a rien qui est au prix normal, là. Une canne de Pepsi, c'est genre 6$, puis un burger, c'est 28$, là. Fait que ça serait probablement beaucoup plus cher qu'ici, mais quand même pas à 500-600$. Peut-être qu'il serait un... Peut-être que ça aiderait à diminuer l'appauvrissement de ces gens-là qui, en plus d'être alcooliques, sont obligés de se ruiner pour s'adonner à cette passion-là, comme on disait avant. Dans ce reportage-là que j'ai vu d'ailleurs, qui est disponible, je pense que c'est Vice Canada qui faisait ça, ça se trouve sur YouTube, il y a une intervenante qui dit que elle s'est penchée sur la culture avec l'alcool, l'adaptation d'une culture à l'alcool. Puis quand on regarde dans le passé des sociétés qui sont habituées à l'alcool, la consommation d'alcool puis le mode de consommation a déjà ressemblé à celle de ces communautés-là qui n'ont pas eu tellement de temps pour s'habituer à cette drogue-là qui est l'alcool. T'sais, on parle quoi, une centaine d'années? C'est pas tellement, là.
Maximum 300-400 ans qu'ils connaissent l'alcool. Fait que c'est sûr que
dans le Grand Nord, d'après moi, ça fait pas si longtemps.
Le métabolisme. Ouais, c'est ça. Fait que leur métabolisme n'est pas fait pour ingérer autant d'alcool. Surtout si tu dis qu'ils calent de l'alcool. Là. Puis juste avant que tu continues, Frank, tu sais, quand tu dis justement. Les réserves, ils veulent voter. Est-ce qu'on continue de prohiber l'alcool ou non? Le problème, justement, c'est au lieu de materner ces réserves-là, le gros problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de travailleurs sociaux. Ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Ils sont loin. On s'entend, c'est le Grand Nord. Fait qu'ils sont très loin. Il n'y a pas de travailleurs sociaux, justement, pour encadrer ces gens-là. Fait que, ils sont prêts à payer, comme tu dis, 600$ pour une bouteille d'alcool. Fait qu'imagine le reste de l'argent, de la paye, où c'est qu'elle s'en va. Il reste quoi, là? Il reste quoi pour vivre, pour nourrir ta famille, tout ça?
Ben, tu te réveilles le lendemain matin, puis il n'y a pas de bouteille dans le frigidaire.
Ben, exactement. Fait que, tu sais, ça amène, justement, c'est des enfants de ce monde-là à copier le comportement, puis on s'en sort pas. Fait que c'est quoi la solution miracle? Moi,
je sais pas
c'est quoi la solution.
Ben, je pense que ça passerait par les responsabiliser parce que justement, il y a une intervenante qui insistait là-dessus.
Oui, je pense que oui.
Qui disait justement que le fait que ce soit illégal, ça n'empêche pas qu'il y ait de l'alcool, c'est juste qu'ils apprennent pas à boire de façon responsable. Vu que c'est fait dans l'illégalité, puis c'est fait dans la délinquance, ça encourage pas une consommation responsable puis légale d'alcool. C'est ça qu'ils devraient apprendre. Puis je vais juste te corriger rapidement sur l'histoire de métabolisme. Quand je parlais d'adaptation à l'alcool, je parlais plutôt d'un point de vue culturel, parce que je me suis renseigné là-dessus, hein, le mythe de l'eau de feu, hein, comme quoi les Indiens supportent pas l'alcool, puis c'est pas vrai apparemment. Il y a pas rien dans leur génétique qui les rendrait plus vulnérables à l'alcool. En fait, les études tendraient à prouver l'inverse, que soit ils sont aussi tolérants que nous, ou peut-être même plus. La tolérance à l'alcool, ça va même varier beaucoup dans les membres d'une même famille, mais pas tellement d'une race, d'un groupe ethnique à l'autre. À part, puis ça, j'ai vu ça, je pense que c'est les Coréens, puis les Japonais qui, eux, ont génétiquement qui sont plus vulnérables, une vulnérabilité génétique à l'alcool, puis eux, ça les saoulerait plus vite. Mais ça serait pas mal les seuls. On sait que en tout cas, on pense, c'est pas mal confirmé, que les Premières Nations du Canada sont issues de l'Asie, de la Mongolie, ces coins-là. Mais c'est justement pas le même bagage génétique. Donc, le mythe de l'eau de feu, c'est pas vrai. C'est plus lié à la façon dont ils consomment. Puis, caler des 40 onces d'alcool, Colin, je veux dire, je connais pas grand monde qui résiste à ça.
C'est ça. C'est ça le problème. Fait, t'sais, comme tu dis, ils vivent dans l'illégalité où
ils consomment moins.
Ils font de la contrebande de génération en génération. Fait, qu'est-ce que tu penses que ça monte à la nouvelle génération? Mais que c'est normal, tout le monde le fait dans le village. Là.
Oui, c'est ça. Puis ça se boit en cachette, ça se boit vite. Puis c'est ça. Il n'y a pas de consommation responsable qui est appris. Puis c'est la preuve que cette prohibition-là marche pas, c'est que dans les régions inuites du Canada, la consommation abusive, pas la consommation d'alcool chez les Inuits de 15 ans, la consommation abusive d'alcool chez les Inuits de 15 ans et plus, c'est 47%. 47% des adolescents Inuits abusent de l'alcool. C'est énorme, là. Puis dans le coin du nord de Terre-Neuve, c'est 38 % dans le nord-ouest du Canada, 34. C'est toujours autour de ça. C'est un petit peu moins au Nunavut, 20 % ça s'est résorbé un petit peu, mais c'est pas toutes les réserves non plus qui sont sèches. Puis moi je suis allé travailler à quelques reprises dans le Grand Nord, notamment chez Sassibi, qui est une réserve sèche. Évidemment, il y a pas d'alcool à vendre nulle part dans les dépanneurs, les épiceries. Mais du monde sous, je peux te dire que j'en ai vu, puis on travaillait des fois la nuit, puis à 4-5 heures du matin, voir un gars battre son pick-up, là, tu sais, battre son pick-up, là, faire des donuts dans le parking de l'hôpital, tu sais, qui est presque le même parking que l'aréna, puis l'espèce d'hôtel de ville, là, l'espèce d'endroit commun de Chisasibi, l'espèce de petit centre-ville. tu sais, qui est quand même, tu sais, bon, du centre-ville, c'est quand même des chemins en terre. Mais il bat son pick-up, tout ça, puis ça paraît qu'il est sous, puis la police qui le regarde de loin, puis ils peuvent, tu sais, ils veulent pas trop intervenir parce que ça donne pas grand-chose. Ils ont pas tellement... ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en dedans pour la nuit, puis... Mais souvent, ce qui va être mieux, c'est peut-être d'aller leur conduire chez eux, juste dors donc, là, puis... Fait que c'est bien difficile de régler ce problème-là parce qu'ils ont pas beaucoup de moyens, les services de police là-bas, puis... C'est pas comme en ville. C'est pas comme une gang de personnes anonymes, t'en arrêtes un. Tu sais, il y a un phénomène de communauté. Ils vivent pas un peu. Ils vivent pas tout à fait comme nous autres. Fait que il y a une autre façon d'intervenir avec ces gens-là. Mais je peux vous dire, en tout cas, pour l'avoir vu de mes yeux, que les réserves sèches sont loin d'être sèches. Même j'ai travaillé avec c'est spécial. Puis là, c'est pas des préjugés, là. C'est vrai ce que je vous raconte là. On est allé faire ce contrat-là dans le Nord, puis on devait avoir 10 autochtones qui devaient nous aider. 10, on... je vais le dire, on en engage 10 en l'espoir d'en avoir 4 ou 5. Il y en a finalement 6 qui sont venus la première journée. Il y en a, je pense, juste 2 qui sont revenus l'après-midi. Puis il y en a un qui a fait toute la semaine avec nous autres. Puis il y en a un que j'ai revu dans la semaine qui était supposé travailler avec nous autres, mais finalement, ça ne tentait pas. C'est spécial hein, là-bas, tu sais. C'est celui qui travaillait avec nous autres, Sherman, c'est vraiment le fun. Ouais. On le jasait avec tout ça. C'est vraiment cool de travailler avec. Mais tu sais, ils ont une autre vision de la vie. Ils ont une liberté qu'on peut même pas comprendre, nous autres. Tu sais, ils travaillent, ils sont en train d'étendre la scie avec la mop, puis... I'm going for a break. Il lâche la mop, elle tombe à terre là, puis s'en va en marchant, tu sais. Puis là, il y a une flaque qui se répand, puis tu sais, lui, il rendait son break là, il lâche tout, puis il va. Puis il revient, genre, 45 minutes plus tard. Ou ben, des fois, il allait dîner, puis là, ben, il revenait pas, puis là, on l'appelait. Puis là, tu reviens pas travailler après-midi? Oh, I feel lazy, I'm gonna stay home. Je file paresseux, ils m'ont resté à la maison. Puis c'était normal, puis ils étaient payés pareil. Hein. Je sais pas si vous le savez, là, mais les 10 ont été payés toute la semaine. Il y en a juste un qui est venu travailler toute la semaine, puis pas tout le temps, mais c'était vraiment le fun, il était vraiment le fun. Mais il y en a un de ceux qui est juste venu la première journée, dans les premières heures, que j'ai revu dans la semaine, puis il était tout content de me montrer son 6-pack de bière qu'il avait payé je sais plus combien, quelque chose comme 30-40 piastres. Puis c'était la fête, là, c'était le party, ça en allait boire ça chez eux, tranquille, tu sais, sur le bord du feu, avec ces 6 bières-là, puis ils avaient payé cher, puis ils attendaient depuis longtemps, puis son dude, il était allé chercher à Radisson, tu sais, c'est pas tellement loin, là, tu sais, tu sors de la réserve sèche de Chisasibi, puis à une heure ou deux... Il y a de l'alcool à vendre. Là. C'est sûr que dans le Grand Nord, c'est plus compliqué. Hein? C'est pour ça que ceux qui sont fait arrêter ce matin passaient par la malle. T'sais, ça se peut-tu? Il fallait que le service de police de Kativik, la Sûreté du Québec, collabore avec la Poste pour mettre la main sur ces bouteilles-là pour ramasser de la preuve. Ils passaient par la malle. T'sais, c'est sûr que là-bas, t'sais, c'est l'avion ou l'avion. Là, t'sais, il n'y a pas d'autre façon de se rendre là, ben par bateau. Mais c'est pas nécessairement facile. Puis c'est long. Mais ah non, c'est. On est loin d'avoir réglé ça. Puis je pense pas que la prohibition, c'est une façon d'y parvenir, en tout cas.
Mais comme je te disais tantôt, c'est quoi la solution? Mais ce que je voulais dire aussi, c'est.
La responsabilité.
T'en parles, puis on en rit parce que. C'est ça, on en rit parce que moi, je trouve que c'est tellement une belle culture. Il y a plusieurs cultures. Il faut dire que chaque communauté a une culture différente. Là. Ils ont comme évolué chacun leur bord pendant des milliers d'années. Fait que,
tu dis on en rit, mais on en parle c'est beau, un peu légèrement parce que ça cause toutes sortes de souffrances. Il y a des
oui.
Tu sais, j'ai j'ai fait exprès de pas noter les côtés les plus sombres de l'histoire, là, mais tu sais, rapidement, ça engendre des suicides, des drames familiaux, de la violence, des gens qui s'endettent. Tu sais, à 600$ la bouteille de vodka, ça doit pas être long que tu t'endettes, là.
Puis tu sais, c'est dans les communautés autochtones, surtout dans le Grand Nord, que c'est là qu'on retrouve le plus de suicides chez les jeunes, chez les adolescents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est des jeunes, c'est des ados de 2020, là, c'est des ados d'aujourd'hui. T'sais, eux autres, ils sont pas intéressés par la chasse. Ben, t'sais, oui, là, t'sais, ils aiment ça la chasse comme n'importe qui.
Non, mais ils vivront pas comme
c'est des ados
ancêtres,
d'aujourd'hui. Ouais. Ben exactement. Fait que, tu sais, eux autres, là, ils connaissent pas qu'est-ce qu'on connaît, nous autres, à avoir d'Internet rapide, même si on est au Témiscamingue.
Ah, ils ont des iPhones. Ils ont des iPhones, puis ils ont Internet. Peut-être pas le même Internet. Ils ont sûrement un Internet comme à Rouen, là, en bois rond, puis en terre cuite. Mais ils ont sûrement Internet quand même. Ils ont des iPhones, tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils ils ont pas d'ouvrage, tu sais. Fait qu'ils lâchent l'école. Ils ont pas de...
Mais c'est ça.
Il y a pas assez d'infrastructures, puis de, tu sais, le fait d'être éloigné, ça fait qu'ils ont pas accès aux mêmes choses. Il y a pas le même genre d'économie, tu sais, dynamique avec des jobs, pis tout ça. S'ils étudient dans un domaine, ben, puis ils veulent performer ou ils veulent apprendre un métier un peu plus poussé, ben, faut qu'ils s'exilent, faut qu'ils étudient ailleurs, qu'ils travaillent ailleurs. Fait que ceux qui restent là ou qui ont l'intention de rester là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de décrochages. Il y a beaucoup de jeunes là-bas qui manquent au moins le quart, si c'est pas le tiers de leur année scolaire. Fait que, ben oui, c'est l'oisiveté et la mère de toutes les vies.
Exactement. Puis comme tu dis, tu parlais tantôt du gars à job, mais c'est la même affaire dans les écoles, comme tu viens de dire. J'ai une de mes chums qui, elle vient de ce coin-là, ben elle vient de Radisson. Puis elle nous contait à un moment donné que dans une école, dans ce coin-là, les jeunes là, allaient à l'école, mettons, ils rentraient l'avant-midi, tu sais, il y avait beaucoup d'absentéisme quand même, là. Mm-hmm. Mais l'après-midi, là, souvent, ils revenaient même pas. Parce que, non, justement, comme tu dis, ils restaient chez eux, ça leur tentait pas.
Faut pas qu'ils dînaient chez eux.
C'est dans leur culture. C'est ça, faut qu'ils restent
chez eux, ils reviennent pas.
Non, mais tu sais, c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est... Moi, je vois pas ça d'un côté négatif. Tu sais, oui, ça amène que ça peut amener, tu sais, du décrochage, puis après ça, ils ont pas de job. Mais comment tu veux changer une culture qui est ancrée dans toi depuis des milliers d'années? C'est ça l'affaire. Fait que pourquoi pas l'accepter? Puis faire avec, puis tu sais, les accompagner au moins, donner des ressources, s'il vous plaît, pour les suicides, puis les femmes qui se font battre. Combien de femmes autochtones, je me souviens plus, mais je pense en 2018 ou 2019, tu sais, qu'il y a eu le gros scandale là, des femmes autochtones qui se faisaient pas enlever, mais qui disparaissaient, là, qu'il y a eu l'espèce de mouvement avec un linge rouge qu'on accrochait après un arbre.
Oh,
il y en a combien qui disparaissent? Il y a un gros problème, là. Fait que tu sais, c'est plate à dire, parce que moi, j'aime vraiment pas dire ça, mais c'est d'éduquer d'une certaine manière, mais sans les blanchir, tu comprends?
Ouais, pour faire une espèce c'est ça, de... C'est rien de simple, surtout avec le bagage qu'il y a en arrière. On a tellement abusé de ces gens-là, on les a forcés à quitter leur mode de vie, puis en même temps, là, aujourd'hui, on essaie de les encourager à le faire vivre, après que nous autres, les Blancs, on l'ait exterminé, surtout par le biais de l'Église. Tu sais, les resident schools, les écoles ou les pensionnats, là, où on envoyait les enfants se faire laver le cerveau, là, se faire effacer leur culture. Là. Hey, on vargeait dessus parce qu'ils parlaient leur langue. Là. S'il fallait qu'ils parlent leur langue ou qu'ils utilisent leur vrai nom,
exactement.
On vargeait dessus. Là, les catholiques, c'est ça qu'ils faisaient. Là. Ils tapaient dessus. Là, tu vas avoir un nom chrétien, tu vas parler une langue, là, le français, là, ou l'anglais, une langue chrétienne qui a de l'allure, là, tu sais. Puis on a détruit ce peuple-là, puis aujourd'hui, ben là, c'est sûr que là, non seulement on les a détruits, mais on leur a amené toutes sortes de marde, la drogue, l'alcool. Puis là, ben c'est ça, on vit avec les répercussions de ça, mais je pense que la prohibition, c'est un mauvais moyen, je comprends même pas. T'sais, puis pour moi, en plus, ce qui me dérange le plus de cette prohibition-là, c'est qu'elle existe juste pour les Autochtones, les Premières Nations, les Indiens.
Exact,
ça n'existe pas des communautés blanches où l'alcool est interdit. Fait que pour moi, c'est une forme de ségrégation. C'est comme... Ah ben c'est un peu comme... C'est paternaliste. C'est un peu comme si on disait... Ah, oh, nous autres, les Blancs, on est capables, mais vous autres, vous n'êtes pas assez responsables. Ben, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que les réserves où l'alcool est disponible vivent plus de problèmes liés à l'alcoolisme que les réserves sèchent. Là, mais bon, c'est sûr que j'y suis pas allé. Oui, j'étais allé un peu, mais pas assez pour avoir une opinion éclairée là-dessus. Mais j'ai pas l'impression que la prohibition, ça fonctionne.
Ben justement, tu sais, moi, je me garde une réserve parce que, justement, comme tu dis, ben moi non plus, je suis jamais allé dans une réserve sèche. Mais tout est allé. Mais tu sais, moi, j'ai jamais vécu ça. Fait que je me dis, tu sais, ça serait quoi la solution? Comme tu dis, excuse-moi, il y a une fenêtre qui ouvre, là. OK. Mais comme tu dis, de priver ces gens-là, moi, je pense que, garde, ça serait vraiment le chaos pendant des années. Mais laisse aller les choses. Enlève la prohibition d'alcool, fournit un bon service de police, puis garde, ça va venir qu'ils vont se responsabiliser. C'est des hommes, c'est des femmes comme nous autres, là, ça va finir par venir. Là.
Et que l'alcool soit vendu par
les communautés, c'est ma pensée.
Puis que les profits de ce commerce-là, ces profits-là de l'alcool pourraient être réinjectés justement dans des organismes qui viennent en aide à ceux qui vivent de l'alcoolisme. Puis tu sais, il y en a quand même là mais pas beaucoup, pas assez, certainement pas assez. Puis une des raisons de ça, c'est que ça coûte cher, puis peut-être que ça serait une façon de financer ça. OK, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va aller écouter un band justement des tu connais peut-être, ils viennent du Témiscamingue. C'est des Amérindiens, des Autochtones, des Indiens, je sais plus comment dire. C'est Première Nation, c'est ça qui serait le plus logique.
Première Nation.
Ouais, c'est ça. Sauf que quand tu demandes à un membre des Premières Nations, ou ben tu l'écoutes parler, il va dire « Moi, je suis un Indien ». Eux autres, la rectitude politique, elle s'est pas rendue là, puis sans calice. Ils se disent eux-mêmes des Indiens. Fait qu'on va le dire, un band d'Indiens qui vient du Témis, avec notamment Daryl McBride, un individu que j'apprécie énormément. Le band s'appelle Mustapio's Magical Murder Music. Quoique aujourd'hui, je pense que c'est juste Mustapio. La tune s'appelle Kill the Mosquitoes. Choir 96, le déluge du Saguenay. J'ai préparé un mash-up, évidemment, encore une fois, puis je pense qu'encore une fois, comme je me suis pas trompé, j'en ai un bon. Mais avant tout, la poutine, je ferai pas aussi bien que Martin, fait que je vais y aller un petit peu plus brièvement. Écoutez-nous sur Radio H2O les jeudis à 20h, si je me trompe pas, et sinon, c'est disponible en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez. Nous y sommes, Le Crachoir, il y a le Facebook Le Crachoir, il y a le site crachoir.com, vous pouvez nous rejoindre via notre Facebook, nous parler directement, on vous répond. Puis c'est pas mal ça, hein, ça va être ça. Il y a le Patreon aussi, si ça vous tente de me donner un petit dollar pour que je puisse vivre d'autres choses que de denrées non périssables. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez envoyer votre canne de bin ou votre paquet de spaghettis. Tout sauf de la style macédoine. J'haïs ça, la Macédoine. Envoyez pas ça, là. Mais chez production, chez podcast.com, allez voir l'adresse. Ils ont sûrement un siège social, podcast.com sur Internet. Il y a sûrement une façon de me faire parvenir vos denrées non périssables, mais évidemment, c'est plus pratique de passer par Patreon. OK, on va y aller avec le mashup. C'est Judas Jackson, un mélange de Michael Jackson et Judas Priest. Ça s'appelle Billie Jean's Got Another Thing Coming. Ça donne ça. Bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine.
membre de la famille H2O Web Media.